refait le monde, Florence Cohen.
Voilà, ça y est, ils sont installés, nos quatre polémistes qu'on va saluer tout de suite. Valérie Lecable, conseillère en communication, bonsoir.
Bonsoir.
Xavier Couture, producteur, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Autre conseiller en communication, Jean-Luc Manot, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Et l'écrivain Philippe Besson, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va commencer avec vous par l'un des rares sujets autres que l'avion, puisque je ne vais évidemment pas vous faire commenter les suites du drame de l'avion, puisqu'on fonctionne sur d'énormes hypothèses actuellement. Donc, on va laisser ça pour le point d'information qu'on fera tous ensemble à 19h45. Mais on va parler du seul sujet du reste de l'actualité qu'on a développé dans le journal de Céline Landreau, à savoir le fait qu'on en sait un peu plus sur la rémunération de nos parlementaires aujourd'hui. La Haute Autorité de la Transparence de la Vie Politique a mis en ligne les déclarations d'intérêt des 925 députés et sénateurs, des déclarations obligatoires depuis une loi consécutive à l'affaire Cahuzac, qui sont censées nous éclairer sur les professions exercées en parallèle, les émoluments du conjoint, la participation dans des sociétés, etc. Alors, est-ce que vous êtes un peu plus rassuré qu'avant sur le patrimoine de nos élus, Xavier Couture ?
Ah oui, vraiment, je trouve que cette mesure était absolument indispensable. C'est tout ce que la France attendait. C'est vraiment quelque chose de fondamental de pouvoir enfin
être
dans cette transparence. Moi, je crois que dans un pays comme la France, qui a tenu longtemps le record du monde des lettres anonymes, qui a réussi, dans un passé récent, à montrer que la délation était un sport national, il me semblait effectivement indispensable que cette transparence enfin existe et que l'on sache à l'euro près ce que font nos députés dans un rapport très compliqué qui est que, déjà dans ce pays où la politique et l'argent font mauvais ménage, qui fait que, comme je l'ai dit déjà ici, elle a été captée par l'administration, parce que si j'ai de l'argent, je peux pas faire de la politique, parce que je par définition suspect, tout cela me paraît assez catastrophique. Et pour terminer, je dirais que en matière de transparence, on ferait mieux d'être capable de faire un point sur notre histoire de manière naturelle et de manière définitive. On est incapable de regarder en face ce qu'a été la Révolution française et ses conséquences. On a beaucoup de mal à regarder en face ce qu'a été la guerre 39-45 et la manière dont les Français sont comportés. On est incapable de faire le point sur la guerre d'Algérie, mais on va faire la transparence sur les rémunérations accessoires de nos députés.
Bravo. Valérie Lecable, vous êtes d'accord avec le constat extrêmement aigre de Xavier ?
Pas tout à fait. Je pense que dans la suspicion des populations vis-à-vis des gens qui les dirigent, il y a toujours justement ce manque de transparence. Je rappelle, et Xavier le sait extrêmement bien, qu'autrefois on ne connaissait pas le salaire des patrons, que tout le monde s'imaginait des sommes absolument hallucinantes, qui sont d'ailleurs hallucinantes, mais en tout cas, petit à petit, les choses ont fait que les patrons ont dû publier leur salaire et leur rémunération, et qu'aux assemblées générales, on donne les salaires des patrons. Pourquoi on fait ça ? Parce que les gens qui dirigent les autres, ils sont redevables devant les autres de ce qu'ils font, de la manière dont ils le font, etc. Après, et puis il y a plein d'autres pays qui publient les salaires des élus, sans que ce soit et des pays, la plupart des pays d'Europe. Après, Xavier soupçonne, mais je ne sais pas pourquoi, les Français les pointer du doigt les rémunérations. C'est pas parce qu'on connaît leur rémunération qu'on va les critiquer. Moi, je trouve, par exemple, qu'au Sénat, où il y a des primes dans tous les sens, que un sénateur y gagne tant par mois, plus sa prime de machin, plus son déplacement, plus machin, tiens, on n'y comprend rien. Et que c'est beaucoup plus simple, clair, net, d'avoir des chiffres. Après, c'est à chacun de se faire son opinion. Je voudrais rajouter juste un mot, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'élus qui font autre chose, qui sont en même temps plutôt avocats dans l'ensemble.
Enfin, beaucoup, ouais.
Et je sais pas quoi en penser, parce que d'un côté, je pense que c'est important d'avoir entre le privé et le public des allers-retours. Je pense que c'est extrêmement important de comprendre. En même temps, cette espèce de cumul de rémunération, puisque les élus sont payés par nous, quelque part me pose un petit problème. Mais j'ai pas la solution.
Alors, voilà pour la transparence, Philippe Besson. Enfin, faut quand même noter qu'entre ceux qui raturent, ceux qui font des pâtés, ceux qui écrivent n'importe quoi, il y a quand même quelques notions de foutage. Enfin, pardon, mais tout le monde ne joue pas le jeu?
Je crois quand même que globalement, tout le monde joue le jeu. Et du reste, moi, je trouve assez normal et assez sain que des élus déclarent leur patrimoine. J'ai pas de souci avec ça. Je trouve normal et sain que ce patrimoine soit contrôlé par une instance indépendante et qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'enrichissement suspect, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y a pas d'anomalie, etc. Ce soit très bien. Ce qui me choque et ce qui fait plus que me choquer, c'est que tout ça soit rendu public. Je trouve qu'il y a là une espèce de déballage impudique qui me gêne considérablement et qui fait de nous, Français, nous tous, des voyeurs et des censeurs. D'abord, lequel des Français qui nous écoutent aimerait que la totalité de ses revenus, sa Twingo, son garage, sa peinture de je sais pas quoi, soit déclarée publiquement et que son voisin puisse aller le voir, etc. personne n'a envie de cela. C'est une sorte de viol de l'intimité qui est quand même très, très choquant quand même. Donc ça fait de nous des voyeurs. Je lisais quand même le titre de Rue 89 tout à l'heure, c'était « Aidez-nous à fouiller dans les déclarations des élus ». À fouiller, comme on fouille dans les poubelles. Mmh. Donc on nous demande d'aller fouiller comme dans des poubelles, ça me gêne. La deuxième chose, c'est que immédiatement, le soupçon se met en branle et le jugement que nous portons là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez déjà vu depuis ce midi, c'est qu'on nous dit « ils sont 20 députés parlementaires à gagner plus de 100 000 euros par an. Et alors ? Et alors ? Et, mais c'est cela, tout de suite on les a pointés du doigt, on a dit, parce que comme si le fait qu'on soit riche voudrait dire qu'on est malhonnête, comme si le fait qu'on soit pas riche voudrait dire qu'on est honnête, j'en sais rien du tout.
Ce sont ceux qui cumulent avec un autre métier.
Et pourquoi devrait-on tout de suite, quand on regarde, on déclare les trucs à 14h, à 15h, on dit qu'il y en a 20 qui gagnent ça.
Jean-Luc Moineau,
ça me choque considérablement.
Ça agrémente
parce qu'on soupçonne.
Ça agrémente le tout-stanti ?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est du cinéma. Au fond du fond, ça ne sert absolument à rien. Au fond, ça ne sert à rien. Moi, vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça me rassure ? Non, j'étais pas inquiet. Enfin, je suis pas inquiet de ça. Je suis parfois inquiet de la compétence des élus. Je suis parfois inquiet de leur honnêteté, de leur loyauté, de leur rigueur, de leur détermination à l'action. Mais je suis pas inquiet de leur rémunération ou de leur niveau de patrimoine. Pour tout vous dire, je préfère même un riche compétent à un pauvre crétin. Je préfère Laurent Fabius comme ministre à quelques autres dont je donnerai pas le nom, avec des revenus et un patrimoine bien moins élevé quand je les regarde les uns et les autres dans l'action politique. Et puis, il y a un autre argument, je suis d'accord avec ce qu'a dit Xavier Couture, est-ce qu'il y a des guides là. Ça fait de la transparence, c'est pas le voyeurisme. C'est-à-dire l'idée que les gens le veulent parce que, comme il y a de la suspicion sur la politique, les gens disent on veut en voir plus. Alors mettons-nous à poil. Alors faisons que tout le monde soit dans un immense striptease. Mais ça, c'est la politique par les sondages, c'est le gouvernement des sondages, et c'est la dictature d'une vision mal comprise de ce qu'est l'opinion publique dans sa noblesse.
Valérie,
je me demande, simplement, je termine, ouais. Je me demande aujourd'hui, le fait de savoir que machin, en plus de ce qu'on sait qu'il gagne comme député, il est en même temps avocat et qu'il gagne tant par mois, qu'est-ce que ça change sur le jugement qu'on peut porter sur lui ?
Si ce n'est que c'est la présupposition systématique de la malhonnêteté.
Oui, Valérie Lecable. Présuppose la malhonnêteté.
Non, mais moi, dans ce que j'entends, il y a un truc qui ne me va pas, c'est que je trouve qu'on confond soupçon, transparence et soupçon. Pour moi, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Quelqu'un qui est à la tête de quelque chose, je veux dire, tout le monde n'est pas obligé d'être élu de la République. On ne demande pas aux gens d'aller se présenter comme député, comme sénateur, comme ça. Ils sont élus de la République, ils représentent les autres et ils ont des droits et des devoirs. Le devoir de transparence ne me semble pas être un devoir choquant. Voilà, parce que pourquoi aurait-il quelque chose à cacher ? Pour quelle raison aurait-il quelque chose
Philippe
à cacher ?
Philippe Bessantique.
Je trouve juste... Attends, je termine juste. Vas-y. Après, qu'à partir du moment où on dit... On publie, donc il y a soupçon, je comprends pas là. Personne n'a dit qu'il gagnait trop. Personne n'a dit qu'il gagnait trop. Personne n'a dit qu'ils avaient volé personne. Personne n'a dit que c'était pas bien.
On le dit déjà.
Personne n'a dit tout ça. C'est ça que je trouve tordu.
D'abord, on est en train de dire déjà cela. C'est-à-dire, on pointe ceux qui gagnent beaucoup. On pointe ceux qui ont une activité à côté. Mais dans le même temps, on explique que si nos élus n'ont aucune activité à côté, ils sont totalement déconnectés du réel. Donc, on nous explique que ces gens qui sont uniquement des élus sont déconnectés de la vie des Français. Parce que justement, ils n'ont aucune activité salariée. Mais dès qu'ils en ont une, on la leur reproche. Ça n'a absolument aucun sens.
Mais qui a reproché quoi ? Qui, pour l'instant ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Personne ne t'oblige à être élu. Effectivement, tu es élu. Mais élu, ça n'est pas être curé. Je veux dire par là que on est en train de demander à nos élus de faire vœu.
C'est pas mal de gagner de l'argent.
Non mais ça n'est
pas du présupposé.
On est en train de demander à nos élus. On est en train de demander à nos élus de faire vœu. Je veux de pauvreté, je veux de chasteté.
C'est le terme qu'utilise Valérie. Elle dit élu, mais il ne s'agit pas d'élus. Il s'agit d'élus politiques. Parce que.
De la République.
Mais, de la République. Et pourquoi de la République ? Pourquoi on ne demanderait pas la même chose d'un délégué syndical qui se présente pour représenter les gens dans son entreprise ?
Mais allons-y,
pourquoi on ne mettrait pas à poil tous les délégués de classe de ce pays ?
Et pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux juges
qu'on touche à la culture ? On ne le met que pour une catégorie parce qu'on verse dans le populisme contre les politiques.
Un juge d'affaires familiales a-t-il le droit d'avoir une maîtresse ? Ou inversement, une juge d'affaires familiales Pascal a-t-elle le droit d'avoir un amant?
Bah oui,
mais on est dans la blague.
Mais c'est
cette
pas une
transparence
droit,
est une blague.
C'est pas une question
Il
de
y a
droit.
Des lois de la République. Où on est honnête ou on est malhonnête. Si on est malhonnête, on est rattrapé. C'est arrivé à un ministre de la République.
Et
à la transparence systématique, c'est un appel à la suspicion. C'est un appel à la culpabilité collective.
La transparence absolue, c'est le fascisme.
La transparence absolue, c'est le fascisme.
Même plus que moi, connaît bien le monde des entreprises, des assemblées générales, etc. Tous les salaires des dirigeants des entreprises sont publiés dans les assemblées générales. Ça ne choque personne.
Et les baisons, enfin,
je veux dire, c'est quand même, il y a quand même.
C'est une règle internationale qui touche au fait que le patron de l'entreprise est payé par les actionnaires.
C'est
et c'est rendu
et ben là,
public
les élus
pour les actionnaires.
Sont payés par
c'est
les
pas
gens qui
tout
les
à fait la même chose.
Je voudrais juste faire une ouverture à Philippe Besson, s'il vous plaît.
Payé par les citoyens. Moi, je sais. Mais je le savais. Vous n'avez pas besoin qu'ils déclarent leur indemnité parlementaire. Elle est connue par tout le monde.
S'il vous plaît.
Non, c'est pas très compliqué.
Je voudrais aussi revenir sur une chose qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure et qui est très intéressante et qui rend, à mon avis, tout ce débat sur la transparence stérile, qui est que cette loi, en plus d'être, je trouve, très impudique, elle est parfaitement inefficace. C'est-à-dire que est-ce que cette loi aurait empêché le scandale Big Malion? Oui. Non. Est-ce que cette loi aurait fait qu'on aurait su que M. Cahuzac avait des comptes en Suisse? Pas du tout. Donc, elle ne nous apporte strictement rien, sinon cette espèce de déballage obscène. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert?
Non, mais moi, je ne pense pas que cette loi soit là pour sanctionner. Je trouve que informer les gens, je vois pas où est le scandale. Après, si cette loi a une vertu, mais on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est de poser le débat sur le double job, oui, non, rémunéré comment? Moi, je trouve que c'est intéressant.
Allez.
Comme débat. C'est un débat qui a du sens.
On s'arrête là-dessus pour un petit moment et on se retrouve tout de suite.
RTL Soir, édition spéciale.
Florence Cohen.
On va refaire un point tout de suite sur les suites du drame de l'avion d'Air Algérie. Cet avion disparu au-dessus de la région de Gao, au nord du Mali, avec 119 personnes à bord, dont 51 Français. Voilà pour les informations que nous avons pour le moment, sachant qu'il y a plus d'hypothèses évidemment que de certitudes. François Hollande s'est exprimé tout à l'heure à l'issue d'une réunion de crise à l'Élysée.
J'ai donc décidé de mobiliser depuis que cette information est connue. Tous les moyens militaires que nous avons sur place au Mali. Car tout laisse penser que cet avion s'est écrasé au Mali. Les moyens également civils dont nous pouvons disposer sur place. Et également tous ceux des autorités qui sont proches. Je pense notamment à l'Algérie, au Mali, bien sûr, mais également au Burkina Faso. Ces recherches dureront tout le temps qu'il faudra. Et encore cette nuit, tout doit être fait pour retrouver cet appareil.
Cet appareil dont tout laisse à penser qu'il s'est écrasé au nord du Mali, a dit François Hollande tout à l'heure. François Hollande qui reporte son voyage à La Réunion. Il devait décoller à 17h20 cet après-midi. Il n'ira pas donc pour jauger de cette situation de crise. Plusieurs cellules de crise sont d'ailleurs mises en place. L'une à la Direction Générale de l'Aviation Civile et plusieurs autres dans des aéroports parisiens à Orly, à Roissy, à Marseille et aussi à Toulouse où plusieurs des passagers devaient se rendre. Olivier Delquerro est d'ailleurs le directeur du cabinet du préfet de Haute-Garonne. Je vous propose de l'écouter.
Nous avions ici, sur l'aéroport de Toulouse, 13 passagers qui étaient prévus pour une arrivée prévue un petit peu après 12 heures. Nous avons mis en place une cellule de crise avec l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la compagnie Air Algérie et le personnel de la préfecture pour pouvoir accompagner les familles qui se présenteraient. Donc nous avons en place une cellule psychologique qui accompagne et accompagnera le temps nécessaire l'ensemble des familles concernées par ce drame. Des familles ont été présentes, d'autres ont pris contact par téléphone. Elles sont toutes identifiées aujourd'hui et donc on leur apportera tout le soutien nécessaire tout au long de ce que durera ce difficile moment.
Voilà, Olivier Delquerro, le directeur du cabinet du préfet de Haute-Garonne, au micro RTL de Patrick Tégéraud. On reviendra évidemment sur les dernières infos à 20h dans le journal de Céline Landreau et évidemment matinale spéciale sur RTL demain avec Philippe Corbet qui prendra l'antenne plus tôt que d'habitude à partir de 6h30 demain matin où on vous donnera bien sûr toutes les dernières informations, on décryptera les hypothèses possibles s'il y en a encore. RTL vous informe bien évidemment des suites de ce drame de l'avion d'Air Algérie.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Florence Cohen.
Alors on va reprendre le cours de notre débat hein, sur un tout autre sujet avec Valérie Lecâble, Xavier Couture, Jean-Luc Manot et Philippe Besson. Tout autre sujet qui est celui-là, à savoir que François Hollande ne semble plus croire à la reprise, contrairement à son optimisme du 14 juillet. Il a jugé récemment devant quelques journalistes que la croissance pourrait faiblir. Alors, même la majorité plus exactement ne veut pas alourdir l'effort budgétaire de 50 milliards d'euros. Elle ne veut pas non plus, bien sûr, alourdir les impôts. Quel levier on utilise? On sort des clous européens, Philippe Besson?
Oh, moi, je ne serais pas du tout gêné, embarrassé qu'on sorte des clous européens. J'ai toujours trouvé que c'était un corset bien douloureux pour les Français et pour les Européens d'une manière générale. Et que si nous avons un peu de mou dans tout ça, ça ne sera pas très grave. J'espère même qu'on arrivera aussi à, si les Européens avaient un peu de dynamisme et d'imagination, à ce que la BCE libère elle aussi un peu sa politique monétaire, la Banque Centrale Européenne. Parce que je pense que là aussi, c'est quelque chose qui contraint la croissance et qui nous pose problème. Au-delà de ça, oui, j'ai bien vu que Hollande était pessimiste sur la croissance. Il n'est pas question évidemment d'augmenter les impôts des Français. Je pense que il faut faire attention en allant trop loin dans la réduction des dépenses publiques. Je pense que les pistes qui ont été ouvertes par Montebourg sur les rentes de situation, sur les notaires, les huissiers, etc., et les fameux 6 milliards qu'on pourrait trouver, je pense que c'est moins, mais enfin, si on en trouvait déjà 3, ça serait pas si mal, permettrait de dégager des marges de manœuvre. Et que du coup, il faudrait, en plus de la politique d'amélioration de la compétitivité des entreprises qui a été enclenchée, je vais sans doute faire bondir, enclencher une petite politique de relance. Alors je sais bien qu'on va me dire que la relance par la consommation, ça ne marche jamais, et qu'effectivement ça va tout de suite vers des produits internationaux ou étrangers. Jean-Luc dans Manot. Une économie mondialisée. Mais justement, je pense qu'il est peut-être le temps de prévoir une politique de relance par la consommation qui serait ciblée sur des secteurs français. On peut le faire sur la restauration. Sur l'automobile française, sur le bâtiment, sur les grands travaux, et que tout ça a du sens.
Si vous permettez, juste avant de. Un mot, on parle de sujets plus ou moins lourds et légers, parce que c'est la règle du jeu. Ça ne signifie pas qu'on s'exonère de l'émotion qui règne autour naturellement du drame.
C'est ce que je disais en début d'émission. Il n'est pas question de s'en exonérer, c'est ce que je vous disais. Simplement, on ne va pas le commenter en l'état.
Naturellement, il n'est pas question de le commenter. Que ce soit ça fait plutôt bien de le dire. Sur les questions de relance, mais il y a deux choses d'abord à noter. D'abord, François Hollande pessimiste, c'est grave.
Hein. C'est nouveau.
C'est grave parce que c'est tellement nouveau. Il a été tellement follement optimiste, déraisonnablement optimiste depuis 2 ans. Il y a eu la phase campagne électorale, il suffira que je paraisse pour que les choses s'améliorent. Et puis il y a eu la période après, ça vient, je le sens, ça monte, ça y est, on y est. Et puis finalement, ben non, c'est raté, on n'y est pas arrivé. Et si je peux me permettre, ça retombe. Donc, on est donc dans ça décrit un état de gravité de la situation du pays. La deuxième chose, c'est que, alors vient de nous dire, le représentant de la deuxième gauche, qui parle aujourd'hui comme la première, oui. Et qui nous dit donc qu'il suffit de pas être dans les clous européens. Mais vous avez gagné, nous ne sommes pas dans les clous européens.
Et c'est pas grave.
Mais nous ne sommes pas.
Et donc, c'est pas grave.
Oui, mais ne donnez pas ça comme une hypothèse de travail. C'est fait.
Mais tant mieux.
C'est fait. Nous ne réduirons pas le déficit budgétaire. Nous ne respectons aucun des engagements que nous avons pris. Nous continuons à les répéter avec aucune intention de les tenir. Donc, cette hypothèse qui est déjà avérée ne peut pas être une porte de sortie.
Alors, Valérie Lecâble.
Oui, moi je pense que Jean-Luc Manot a raison de dire c'est grave. Alors il rigole sur François Hollande, il a raison, mais le sujet est plus important que celui-là. Je pense que tout vient du modèle français. Le modèle français qui est un modèle de redistribution, les retraites, la sécurité sociale, on aide les gens, on est là, on laisse personne sur le bord de la route, on essaye. On sait que ça pèse, en gros, à peu près 30% du PIB. C'est 30% du PIB de la France. Ça permet quoi? Ça permet que quand il y a des grosses crises, violentes, graves, sévères, eh ben la France en trinque un tout petit peu moins que les autres. Parce que on a ce socle qui amortit. Et même s'il y a des gens qui dévissent, eh ben globalement, on arrive à peu près à rattraper les uns et les autres par le bout de la main et à les tenir à bout de bras. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que quand la reprise revient, eh ben, comme on a ce fardeau des 30% à porter, eh ben, nous, c'est la montagne est plus lourde à monter, et plus longue à monter, pardon, le sac est plus lourd, et on repart toujours moins vite, moins fort, ça prend plus de temps. On dit toujours qu'on a une à deux années de décalage vis-à-vis des États-Unis sur une reprise, etc. Et là, le problème, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et sans rigoler, je pense que c'est ce qu'exprime le président de la République, il a essayé de naviguer à vue fort de ce modèle français et de le conserver. C'est-à-dire de dire, ben, on va surfer entre les deux lignes et continuer bon an mal an. Et juste, c'est un échec, hein, disons-le, c'est un échec, il n'y est pas arrivé. Depuis le mois de janvier, il a essayé autre chose, il a essayé d'accélérer, il a essayé, etc. Et il voit que ça marche pas, que ça n'embraye pas, que ça ne repart pas. Donc la vraie grosse question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va falloir mettre à mal notre modèle? Parce que on est plus qu'au pied du mur, ça fait longtemps qu'on est au pied du mur, qu'on recule. Lui a reculé. Et maintenant, j'ai bien peur qu'on ne puisse plus reculer. Donc le modèle français,
vous aviez c'est Couture. Vous êtes retraite,
la sécurité, tout ce qui nous protège du monde,
je pense que
et qui continue à nous protéger
du monde. Il se confronte à une réalité économique qui n'est pas effectivement, dont il n'est pas le seul auteur, même s'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'enrayer le drame. J'imagine, ça doit être de l'ordre de 60 milliards le remboursement cette année de la dette. Je rappelle qu'on est à 2000 milliards de dettes, ce qui est aujourd'hui quelque chose qui, quels que soient les discours politiques, est une réalité objective. Il y a 2000 milliards de dettes qu'il va falloir rembourser. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? La première, la deuxième, la troisième gauche, la première, la deuxième, la troisième droite peuvent tourner en rond autour du sujet. Pendant des années, ça ne changera rien. On sort des clous, on sort pas des clous, ça ne change rien. On sait qu'à partir du moment où on est au-dessus de 3%, aux alentours de 3% de déficit budgétaire, on commence à réemprunter de manière massive. Donc la problématique, elle est simple. Comment fait-on pour que ce pays rentre dans les clous? Il y a deux solutions. La course en avant, c'est-à-dire une relance par la consommation qui veut dire une subvention par la dette de la capacité des Français à relancer l'économie. Et d'ailleurs, en général, ça profite plutôt aux importateurs qu'aux producteurs français.
Sauf si on décide de réserver cette relance à des
Français. Oui,
il faudrait que les Français acceptent de désépargner.
Et puis pour terminer...
Mais ça s'appelle le socialisme dans un seul pays et la phase léniniste a montré que ça ne marchait pas.
Oui, mais sauf que tu décides de subventionner l'automobile française, si tu décides de relancer le bâtiment qui ne peut se passer qu'en France...
Et on ne vendra plus une voiture.
C'est une vision économique d'un autre âge.
C'est exactement ce qu'ont fait les Américains.
Mais vous êtes dans un système.
Ils ont subventionné leur automobile.
S'il vous plaît, juste pour terminer.
Sauvé General Motors.
Cher Philippe, ce qui s'est passé, et l'exemple américain est bon parce qu'effectivement, ils sont en permanence, ils balancent entre une économie dirigée avec de vraies stratégies industrielles et une économie totalement libéral, j'ai eu l'occasion de le dire ici, aux États-Unis, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. En France, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et vous voulez nous en rajouter encore
une fois? Ils vont bien mieux que nous. Ils ont une dette très largement supérieure à la nôtre.
Ils font la monnaie du monde. On ne va pas se comparer aux États-Unis. La seule comparaison raisonnable qu'on puisse faire, c'est la comparaison avec l'Allemagne. L'Allemagne, elle a fait ce qu'il fallait faire, la réduction des déficits budgétaires de manière drastique et une relance de l'industrie de la manière la plus efficace possible. Ils sont embarqués eux-mêmes dans un ralentissement de la reprise en Europe et nous sommes évidemment un des facteurs d'impact d'un ralentissement de l'économie allemande.
Mais moi, ça serait arrogant de dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est surtout la question qu'il faut se poser. Que peut-on faire? C'est-à-dire dans l'état global ou SPI, sur le plan de son moral, de son dynamisme, de ses forces vives, de ses ressources, que peut-il accepter? Comment est-il prêt à se mobiliser? Il y aura forcément une phase qui sera une phase très difficile. Soit ce sera une phase très difficile pour rebondir, soit elle arrivera trop tard et ce sera une phase qu'enclenchera la phase définitive du déclin et qui fera que ce pays, avec quelques éléments de recherche qui continueront, enfin je ne veux pas noir sur le tableau, mais enfin qui ressemblera plus à Ibiza demain qu'à une grande une grande puissance, ce sera le bronze cul de l'Europe, on y viendra, on ira voir des bâtiments, etc., mais on n'y aura plus beaucoup d'activités. Et ce que je dis là, c'était à l'échelle de 30-40 ans, est une perspective qui existe pour ce pays. Ou alors, il y a une phase plus rude qui permet de relancer. Et en clair, l'enjeu des prochaines élections, elle sera de savoir si face à une purge thatchérienne que certains appellent de leur vœu, et qui dans certains pays a fonctionné, car je rappelle que ça a été très dur en Espagne, ça a été très dur en Irlande, et ces pays s'en sortent.
Portugal.
Et reprogressent, et au Portugal, et qu'aujourd'hui la croissance est de retour. Est-ce que ça sera cette thèse-là, ou est-ce qu'on va inventer à gauche, est-ce que la social-démocratie, en clair, est capable d'inventer un nouveau modèle qui sera assez convaincant pour trouver une solution moins cruelle, mais efficace.
Ouais, moi, je suis d'accord sur cette histoire de nouveau modèle, mais je pense que le mot croissance, il faut qu'on arrête de le prendre comme il était hier. Je pense que les croissances qu'on a connues, on ne les connaîtra plus. On va connaître des croissances beaucoup moins importantes. Et donc, le sujet, c'est comment on emploie... On a 10% de notre population active qui est au chômage structurel aujourd'hui dans ce pays. 10%, c'est considérable. Et le sujet, c'est ça aujourd'hui. C'est comment on emploie ces gens, comment on les remet au boulot, comment... Voilà. Et moi, je pense qu'il faut... Il faut rendre l'économie flexible comme aux États-Unis.
Allez, on en termine là sur ce sujet. On passe au troisième de cette émission. Je vais vous parler de la sécurité sociale. Il faut que la Sécu rembourse moins les somnifères. Ça, c'est l'avis de la Haute Autorité de Santé transmis au pouvoir public. L'idée, c'est de les rembourser à hauteur de 15% contre 65% actuellement, parce que leur efficacité est jugée trop faible et donc ce serait frapper les Français au porte-monnaie pour les forcer à consommer moins de somnifères. Est-ce que c'est la bonne méthode et pour résorber le trou de la Sécu, sait-on jamais, et pour inciter les Français à en consommer moins?
Pour résorber le trou de la Sécu, sans doute pas, parce que ça...
C'est petit.
Ça fait pas
mais c'est quand même un mouvement.
Ça fait quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros.
Vu la consommation, ce sera un mouvement.
Mais ceci étant, par contre, je trouve que c'est une très bonne chose que de dérembourser les somnifères. Parce que, effectivement, voilà quand même des médicaments dont il est avéré par toutes les études faites par les autorités sanitaires que, un, ils ont un intérêt thérapeutique limité, c'est-à-dire qu'ils ne règlent pas la question de la qualité du sommeil, la durée du sommeil, que par ailleurs, ils peuvent avoir une dépendance et des effets secondaires extrêmement nocifs, d'accord, sur les troubles de comportement, etc. Bon, donc c'est quand même un petit peu compliqué, et que par ailleurs, ils sont très mal utilisés. Donc, on ne voit pas très bien pourquoi on devrait continuer de rembourser des choses qui ont aussi peu d'intérêt, aussi peu d'efficacité et même sans doute un peu de dangerosité. Donc fondamentalement, si en touchant au portefeuille, on peut aider les Français à se désintoxiquer des somnifères, ça ne sera pas forcément une mauvaise chose. Oui.
La méthode est bonne, Xavier Couture ?
Ah, moi, je trouve formidable, on vient de de s'affronter sur un sujet
à
2000 milliards et on en est aux somnifères. Qu'on donne aux Français l'impression qu'on agit quand on dérembourse les somnifères, moi, je ne marche pas dans la combine. Je suis d'accord avec Philippe, on en prend trop. Les Français en prennent trop. S'ils en prennent moins à cause de cette mesure, tant mieux. Ouais. Je ne m'exprimerai pas sur un sujet qui est totalement périphérique au vrai sujet qui doit aujourd'hui.
Un Français sur cinq qui en prend.
Ce sont les éléments d'information qu'on donne en pâture à une opinion qui, évidemment, se précipite là-dessus.
Non, mais les Français sont contre l'analyse, Valérie.
Moi, je pense qu'ils ont raison tous les deux. C'est-à-dire que c'est un sujet périphérique, mais qui peut être hautement symbolique. Symptomatique, parce que c'est la vie quotidienne des gens et que ça les concerne. Et moi, je serais favorable à ce qu'on rembourse à 0%.
Donc on ne rembourse pas, en fait.
0%. Pourquoi 15%? 15%, c'est 15% de trop.
C'est un symbole.
Puis, si ça ne sert à rien, si ça coûte cher, et si on en prend 10 fois trop, que ce soit 0%. Alors, j'exclurais, évidemment... les vraies pathologies graves que je connais mal, je veux dire, c'est pas un sujet que je connais très bien, mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça rend dingue.
L'angoisse face à la crise,
de pas
par
dormir.
Exemple. Ça, c'est un truc qui peut nécessiter des somnifères.
Attends, mais tu plaisantes, tu sais que depuis la crise, ça a explosé. Eh
ben,
il y en a encore plus.
Ça peut servir à quelque chose.
Voilà, exactement.
Voilà, vous voyez que les sujets sont connectés.
Supprimons complètement le remboursement pour montrer symboliquement aux gens qu'il faut arrêter de balancer l'argent par les fenêtres.
Jean-Luc
et
Mano.
Leur santé avec.
Jean-Luc Mano.
Non, mais voilà, il y a une chose avec laquelle je suis d'accord. Si ça sert à rien, il faut pas les rembourser.
Voilà.
Oui, on est d'accord.
Enfin, on peut imaginer qu'on les retire du marché. Parce que si, en fait, on balance des placebos à des gens et qu'on leur fait payer, c'est inacceptable. Ça s'appelle de la je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs.
Ça s'appelle du business pour les labos pharmaceutiques.
C'est ça. Qui vont pas aimer du tout ce qu'on est en train de
On est dans un pays on est dans un pays développé et on se dit il y a des trucs, l'État, le gouvernement, les scientifiques disent ces trucs ne servent à rien et on se dit on va les rembourser seulement à 15%. C'est ahurissant. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment personne ne pense qu'il s'agit là de la part du gouvernement, de l'État, d'une volonté de santé publique. Il s'agit uniquement d'accentuer les déremboursements en tout genre qui sont faits, pas plus qu'on croit que l'État se préoccupe de la santé des gens quand il veut taxer les sodas parce que ça fait grossir, tout en gardant des taxes sur le tabac qu'il n'interdit pas parce qu'il trouve que ça rapporte beaucoup. Donc on sait bien qu'on est dans une totale hypocrisie et que naturellement ce n'est pas du tout, ce n'est qu'une question de gros sous, d'argent, et absolument pas une question de santé publique. Et je termine le fait que ça ne s'achète pas à l'épicerie du coin, un somnifère.
Ça donc, sur la prescription médicale.
La question, plus, c'est les gens qui le prescrivent. Donc, on peut. Est-ce que ça veut dire que les médecins vont dire oh là là, ça augmente ça. Vous allez être remboursé seulement de 4 euros au lieu de 6, donc je vous le prescris plus. Les médecins prescrivent en fonction du prix des médicaments. Les médecins de ce pays sont fous. Ou alors, c'est qu'il y a un problème dans la prescription. Donc, c'est peut-être là qu'il faut voir avec les gens qui décident.
Eh ben voilà, est-ce qu'on contraint finalement les médecins à prescrire moins ou est-ce qu'on utilise d'autres moyens coercitifs ?
On les écoute peut-être aussi.
Merci à tous les quatre d'avoir débattu de façon plus éphémère que d'habitude ce soir. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de RTL Soir. Et donc, fait le monde. Excellente soirée.